Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
Nous allons commencer donc la deuxième session de cette journée qui porte sur les matériaux et les processus de conception. Donc je vais laisser la parole à Pauline Ouvrard qui s'occupe de l'animation de cette session, puisque Laurent Lescope, qui était donc affiché dans le programme, a un petit souci de santé, a le Covid, donc il reste à distance. Et Pauline va assurer donc l'animation.
Merci Céline, bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai entendu dire que ce matin avait été plutôt productif. Daniel Siret avait l'air enchanté de la montée en qualité à mesure de la matinée. Donc j'espère que l'après-midi va compléter ce que vous avez vu ce matin. Donc pour cette session intitulée Matière d'ambiance et processus de conception, c'est donc cette deuxième session se porte sur la question de l'expérimentation des ambiances. Donc là, on va plutôt se poser la question, depuis les essais, expérimentations qui sont portées, comment on peut saisir les ambiances et puis les mettre au travail peut-être un peu autrement. Donc on va avoir plusieurs témoignages en tout cas en la matière qui vont nous montrer comment, depuis des expérimentations, donc tantôt pédagogiques ou avec d'autres caractéristiques peut-être plus scientifiques que pédagogiques, mais la pédagogie peut faire science aussi, donc on va peut-être en discuter en ce début d'après-midi, le travail des ambiances par l'expérimentation peut donner lieu à un renouvellement aussi des processus de conception ou des manières de fabriquer de l'architecture. Donc on va commencer la session avec Martha, qui va nous parler du mur haptique. Donc vous verrez, on sera sur des échelles aussi qui sont quand même proches de la question de la matière. Donc Martha, vous avez 10 minutes. Ensuite, on prend systématiquement plutôt un temps de questions, mais plus de nature, de compréhension. Voilà, si vous avez besoin d'approfondissement, de compréhension. Et les débats viendront à l'issue des différentes présentations qui vont se succéder. Donc c'est parti, Martha.
Oui, ça marche. C'est bon. Bon, mais bonjour à tous et merci pour votre présence. Et pas, désolée. C'est bon. Et donc, mon nom c'est Martha Miranda et aujourd'hui je suis ici pour vous expliquer une expérience que j'ai menée en collaboration avec une collègue du Cresson, Nuria Alvarez, qui malheureusement elle ne peut pas être là. Donc, justement, je vais vous expliquer concrètement une expérience qu'on a menée à Grenoble et aussi à Barcelone. On a modifié l'espace pour l'intégration d'un mur intercru. Donc, avant tout ça, j'aimerais bien tout simplement dire deux, trois petites choses pour contextualiser justement ce type d'architecture. Donc, l'intercru, c'est un matériau qui fait partie de notre architecture vernaculaire. En fait, c'est un matériau qu'on utilise depuis la nuit du temps. Franchement, c'est depuis le néolithique qu'on parle. Et la particularité aussi de les architectures vernaculaires, c'était que c'était une espèce d'extension de la nature. Aujourd'hui, la chose que ça arrive beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de démocratisation de l'habitat. Par exemple, c'est les gros projets de lotissement qui font que Ça mène aussi vers une sorte de médiocrité aussi sensorielle. Donc, du coup, avec Nuria, on a essayé de mettre en place aussi comment les architectures vernaculaires et les matériaux naturels, ils pourraient justement créer une espèce de réveil des sens. Alors, à niveau des matériaux, dans l'utilisation des matériaux naturels, on retrouve quelque chose d'assez particulier, c'est que les surfaces, ils sont uniques, en fait. C'est des surfaces qui ne se répètent jamais. En fait, on trouve toujours des rythmes qui ne sont pas identiques, en fait, qui changent. Par contre, si on regarde ça vers les matériaux suivis des processus d'industrialisation, on voit des matériaux qui tendent vers une sorte de perfection. Donc, du coup, c'est aussi ça qu'on s'est dit, est-ce qu'il ne pourrait pas, les matériaux naturels, justement, mener vers une sorte de réveil des sens et une resensibilisation de l'architecture? L'autre particularité qu'il y a les techniques de construction avec des matériaux naturels, c'est la possibilité d'impliquer l'usager. En fait, mais l'impliquer même pour la fabrication des murs et surtout les phases des chantiers. Par rapport à ça, je ne vais pas avoir le temps, mais je vous invite. Avec Nouria, on a mis en place un petit vidéo de 20 minutes où on explique toute l'expérience menée à Grenoble. Donc ici, vous avez tous les processus aussi de... Bon, il faut que je fasse... Je ne vois pas trop depuis ici, donc je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais... Bon, vous avez tout le processus de fabrication des briques.
Il y avait aussi d'autres façons.
Donc du coup, comment justement les usagers du quartier à Grenoble, ils s'étaient impliqués sur ce processus-là. Donc, je vais vous laisser découvrir et je vais continuer. Donc, et par rapport à l'hypothèse de départ qu'on s'est posée ensemble, c'est est-ce que les espaces architecturaux, lorsqu'ils sont conçus à partir des matières premières, ont la capacité d'orienter des ambiances spécifiques et des processus d'appréhension, conception et fabrication impliquant directement les corps et donc l'ensemble de notre sensorium. Donc c'est sur cette hypothèse qu'on est parti avec Nouria pour nous poser les questions de recherche suivantes. C'était justement voir si l'utilisation de la terre pourrait justement renforcer les liens du corps à son milieu et aussi voir comment les changements des matérialités d'une espèce ils pouvaient modifier la perception de celui-là. Aussi, comme je vous disais, il y a la particularité des chantiers en terre, c'est aussi la participation de l'usager. Donc on se disait, est-ce que ça ne pourrait pas justement le fait que les gens ils puissent participer dans les chantiers aussi modifier l'espace perçu? Alors, et à niveau de l'expérience, elle était menée, comme je disais, à Grenoble et à Barcelone. À Grenoble, justement, c'était une salle de réunion dans les quartiers de l'Abbaye. Et la chose qu'on a fait, c'est introduire un mur en terre. Et à Barcelone, c'était un bureau dans l'université. Et dans ce cas-là, c'était un enduit. À niveau du protocole, on a mis en place un protocole qui, tout d'abord, on expliquait qu'est-ce qu'on allait faire aux participants. Ça suivait pour un moment, justement, on essayait de détendre un peu les participants. On appelait ça justement l'activation des sens, c'est pour détendre un peu, on va dire. Et après, les participants, ils rentraient. Ce moment, on avait divisé le temps en deux parties. Il y avait deux minutes où les participants, ils découvrent l'espace. Et après, pendant 7 ou 8 minutes, on avait demandé de faire une activité précise, par exemple lire, prendre un café ou écouter la musique. Suite à ces 10 minutes d'isolation dans la salle, on rentrait, on a fait un entretien et aussi mené un questionnaire. Il faut savoir que toute cette expérience, il était enregistré. Au niveau des profils des personnes, on avait des gens justement qui ont fait l'expérience sans la terre, donc à l'état initial, des gens qui sont faits à l'état final, donc qui sont vus directement qu'avec de la terre. Après, il y a des gens qui ont fait l'expérience deux fois, avec et sans terre. Après, on a eu des gens qui sont participés au chantier et fait l'expérience avec de la terre. Et on va dire, ici, c'était un peu la totale. Et ils ont fait l'expérience avant, ils ont participé au chantier et ils ont fait l'expérience avec les murs. Donc, à niveau des techniques de collecte, on a fait, comme je disais, des questionnaires, des entretiens semi-directifs, mais aussi l'effet d'avoir enregistré les gens. Ça a permis aussi de voir comment les gens ils s'est déplacés dans l'espace. Tout ça aussi, c'était complété par des mesures physiques. On a enregistré les températures, l'humidité et aussi mesuré les caractéristiques acoustiques des salles. Alors, tout ça, il nous a mené l'analyse de tous ces éléments. Il nous a mené à dire, on a observé que les gens, ils avaient une tendance à mélanger les différentes expressions. Par exemple, des fois, c'était... Quand ils s'exprimaient, la perception du lieu, c'était basé sur des jugements personnels. Parfois, il y avait plus de métaphores, aussi des ressentis corporels. Et aussi, surtout quand il y avait la terre, il y avait pas mal de liens aux propres mémoires et au vécu personnel. Et aussi, on a vu qu'il y avait plus l'utilisation des métaphores au moment que la terre elle était présente. L'autre chose qu'il y avait par rapport à notre questionnement initial, c'est qu'effectivement, on a vu un changement d'ambiance perçu. Mais c'est aussi que les lieux avec la terre, souvent, ils étaient décrits comme un lieu, du moment qu'il y avait la terre dans la pièce, comme un lieu chaleureux, accueillant, calme. Et aussi, il y a eu un rapport assez fort à l'humain, en fait. L'humain, c'était décrit par la présence des briques, en fait, comme il y avait des traces, des doigts, c'était vraiment cette côté artisanat qu'il y avait derrière du mur, que les gens ils faisaient beaucoup d'appels à l'humain. Et par exemple, dans l'enduit à Barcelone, c'était la trace de la taloche. Tout ça portait une espèce de singularité, pour dire que c'est un élément un peu singulier qu'on a ici, mais on ne peut pas avoir ailleurs. Des fois aussi, les murs ils étaient comparés avec une œuvre d'art, avec cette idée de dire que c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et l'autre chose qu'on a remarqué, c'est une espèce d'attirance vers les murs. Justement, les vieilles nous a permis de tracer les mouvements des personnes. Ça, c'était sans la terre. On voit que les murs qui étaient modifiés, c'était cette paroi-là. Les gens, ils sont tendance à aller à la fenêtre. Du moment qu'il y avait les murs, les gens, ils sont tendance vers les murs pour toucher, découvrir justement qu'est-ce que c'était ces nouveaux matériaux. Ça, c'était surtout quand les gens, ils avaient vu les lieux sans la terre, en fait. Finalement, je ne sais pas combien... Ok, ça marche. Sinon, par rapport à justement à les mesures physiques, on a pu mesurer avant, sans la terre et avec la terre, et on voit qu'il y a une petite amélioration avec la terre. Ça, c'est le cas, les verts, c'est à Grenoble, et les marrons, c'est à Barcelone. Donc, on voit que les temps de réverbération, par exemple, ça réduit un peu, mais ce n'est pas énorme. Mais par contre, du moment que la terre elle était présente, les gens ils avaient une tendance à dire qu'il y avait moins résonance, que l'espace était moins vide. Donc ils avaient comme un aperçu positif que finalement la mesure, ce n'était pas si important, cette différence-là. Ah, ok, c'est bon, j'arrive à la fin. Donc du coup, on s'est dit que justement, l'effet de la terre, peut-être, il y a d'autres choses qui rentraient en jeu parce que les gens, ils parlaient beaucoup de diminution de la résonance. Mais finalement, bon, franchement, surtout à Barcelone, elle est assez, on va dire qu'il est presque, elle est vraiment très petite. Donc, et pour finir, l'autre chose qu'on a remarqué aussi, c'est l'influence du récit dans la perception. On a vu que les gens, justement, du moment qu'ils avaient fait l'expérience avec et sans terre, donc ils avaient des informations qui s'annourrissent justement en une espèce de récit ou d'histoire personnelle du perçu dans la pièce qui venait justement quand il y avait la terre, ils avaient tendance à dire que c'était meilleur, que c'était plus chaleureux, que c'était cocon. Et par exemple, à Barcelone, surtout, que c'était un enduit en terre mais assez blanche. Il y a eu 4 personnes qui sont arrivées, qui ne nous connaissaient pas, qui ne savaient pas faire l'expérience auparavant, et à aucun moment ils ont parlé de la terre, on n'a pas retrouvé cette qualification de chaleureux, accueillant. Vraiment, il n'y avait pas cette partie-là. Donc ça nous a mené avec nous à nous questionner aussi sur la place du récit et des informations qu'on connaît avant d'apprendre un lieu. Et comment cette partie il peut aussi modifier la perception d'un espace. Donc justement, on se demande, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à approfondir sur ça? Et je pense, ça va, j'ai tenu. Je vais m'arrêter là, et si vous avez des questions, ça sera avec plaisir.
C'est parfait, on va prendre, s'il y a quelques questions dans la salle, dans l'assemblée.
Comme je vais, Eleonore Bach, comme je vais partir assez rapidement, j'ai une dernière question. Merci pour cette présentation. Moi, je reviens sur votre analyse du regard sur le mur qui ressemble aux lignes d'air de Deligny. Ça a aussi tout un aspect chorégraphique, en fait. Et la chorégraphie, c'est aussi une manière d'aborder d'acquérir une connaissance, c'est une activité connaissante. Et est-ce que ce n'est pas plutôt ce mouvement vert qui apporte la dimension chaleureuse, parce que ça parle aussi de compassion, d'empathie, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est le matériau lui-même qui déclenche ça?
Mais peut-être, je pense aussi qu'il y a quelque chose au niveau des couleurs aussi. La terre, souvent, c'est des couleurs ocre, marron, qui sont plus... Je pense qu'il y a aussi ce côté chaleureux dans la couleur. Effectivement, ça que vous disiez, c'est possible. Je ne sais pas vous répondre dans ce sens, mais oui, ça pourrait être aussi une piste Après, c'est aussi, il parlait beaucoup du côté enveloppant de la matière. Donc, du coup, c'est justement les pistes qu'il ressort, c'est peut-être lien aussi à la nature, c'était assez fort. Et il y avait beaucoup de liens aussi à la couleur, quand même. La texture aussi, parfois. Après, je n'ai pas su aller justement à voir les formes.
J'ai dit ça parce qu'à un moment donné, vous avez évoqué des gens qui n'avaient pas fait l'expérience et qui n'avaient pas la même sensation. La question est, qu'est-ce qui reste finalement en termes d'expérience commune pour ceux qui l'ont pratiqué et ceux qui ne l'ont pas pratiqué? Et donc, la question du plan chorégraphique était intéressant. Voilà.
Peut-être. Après, c'est vrai que cette personne-là, c'était surtout à Barcelone. Et à Grenoble, quand même, c'était des briques assez présentes. Mais à Barcelone, c'était un enduit et c'était assez blanche. Donc, du coup, après, parce qu'à la fin de l'entretien, on disait il y a de la terre, les gens abondent de la terre, et souvent utilisée dans la plante. Et non, non, quand même pas, dans les murs. Et du coup, il disait, ah oui, j'ai vu, mais ça m'a paru un vieux placo, un truc comme ça. Donc, il ne savait pas vraiment cette notion. Et même, il y avait quelqu'un qui avait grandi en Galice, il y a de la terre. Et ah oui, mais j'ai l'habitude de voir des terres couleur ocre. Et c'est vrai que je n'ai pas fait attention. Donc, du coup, je ne sais pas. Mais vraiment, il y avait quelque chose avec la couleur et l'aspect des surfaces, beaucoup.
Oui, alors moi, ah oui, je me présente, donc Théo Marchal. J'avais une question par rapport à au fait qu'il y ait une expérimentation ou pas des participants. Je me demandais qu'est-ce que ça implique sur la perception, sur l'appréhension sensible, donc par tous les sens, entre ceux qui ont participé à la mise en œuvre du mur et ceux qui n'y ont pas participé. Est-ce que vous avez pu observer des choses, des différences en fait?
En fait, il y avait des différences. Bon, les gens qui savaient participer au chantier, et par exemple à Barcelone, c'était plus simple, mais remarquer les changements des couleurs. Parce que bon, la terre, quand on la met, elle est humide et après elle change. Donc ils s'étaient beaucoup à remarquer, il y a eu un changement, donc ils étaient assez observatifs. Et les gens qui sont fait les briques, c'était plutôt dans la surprise de dire, parce que bon, les briques, ils s'étaient façonnées avec des moules, mais on va dire que c'était des gens qui ne sont pas dans les métiers. Bon, ils n'avaient pas un rendu nickel et finalement, ils étaient assez surpris que ça rendait si bien. Tu vois, c'était plus des commentaires sur, ah, finalement, c'est bien et ça rend quelque chose d'assez, on va dire, assez cohérent, assez... C'était plus dans ce sens-là, vraiment. Et après, la chose qu'on a remarquée, mais je pense qu'il faut continuer éventuellement à approfondir, c'est qu'il n'y avait pas si de différence entre les gens qui avaient participé au chantier, au-delà d'aller voir plus les détails du mur, voir comment ça avait changé, que les gens qui avaient fait l'expérience sans les murs et avec les murs. Donc c'est pour ça qu'on se dit, dans cette récit, composition du récit, il y a l'effet d'avoir participé, mais aussi l'effet d'avoir des informations sur la pièce avant et après. Et même des fois, des gens qui nous connaissaient, qu'ils savaient que Nouria et moi, on travaille avec la terre. Tu te dis, ah mince, ils savent qu'est-ce qu'on fait. Donc, ils vont nous dire des choses, des gens qui déjà ils travaillaient avec la terre. Donc, du coup, ils n'étaient pas si surpris. Mais ils avaient quand même des informations auparavant. Et du coup, pour moi, les récits, c'est ça, c'est la participation. Ça peut changer, justement, parce que tout est construit, ta perception, avec d'autres éléments. Tu vois que nous, la matière, elle était brute et tout la mise en œuvre. Mais aussi l'effet de dire, j'ai connaissé les lieux avant et après, donc toi, vraiment, en comparaison. Et c'est vrai que quand les gens, ils ne sont pas cette comparaison, la chose que j'ai remarqué aussi dans d'autres parties de ma thèse, c'est plutôt l'indifférence. Il n'y a pas quelque chose de négatif vers les murs en terre. C'est plutôt les gens, ils sont indifférents face à ça.
Parce qu'il y a, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me l'annonce qu'il n'y en a pas d'autres, nous allons poursuivre.
Non, moi j'en avais une.
Ah, allez-y, ah, je n'ai pas vu en ligne. Allez-y.
Si c'est possible, merci. Donc, pour signaler qu'en 2016, on avait construit avec le laboratoire Cresson et puis le laboratoire AECC à Grenoble, Architecture, Environnement et Culture Constructive, un prototype d'habitat qui était un appartement. Cet appartement, il était fini avec de la terre, en fait, en matériaux de finition intérieure. Et l'hypothèse, plutôt l'objectif de cette expérimentation à échelle 1, parce que c'était un appartement qui était un type 3, hein, complet, c'était de valider ou plutôt de rechercher comment les gens pouvaient percevoir la terre dans un appartement. Est-ce que ça avait une capacité, est-ce que c'était recevable d'un point de vue de la culture des Français. Et donc, on a fait des enquêtes pendant ce... Donc, ce prototype, il a été construit à échelle 1. Il a été testé pendant 4 mois et il y a des enquêtes qui ont été menées par les étudiants à l'intérieur du bâtiment qui était visité et qui a été visité par environ 2-3 000 personnes. Et je pense que ce serait intéressant que vous alliez voir comment la combinaison de la lumière, qui leur apparaissait en général beaucoup plus brune qu'ailleurs, la thermique et l'acoustique généraient effectivement un vrai sentiment de différence par rapport à un appartement qui était tout blanc et en plâtre. Et j'ai pas trop compris comment vous aviez analysé vos temps de réverbération là, dans les intérieurs en terre. Mais il est certain qu'il y a un peu plus d'absorption dans les aigus, dans ce type de lieu. Voilà, donc il y a quand même, enfin bon, vous avez un panel d'informations que vous pouvez récupérer à Grenoble sur ces enquêtes qui doivent être stockées quelque part, pas au Cresson, mais dans l'équipe AECC, pour pouvoir un peu plus étoffer peut-être votre première analyse là avec les personnes que vous avez enquêtées. Voilà.
Mais ça m'intéresse bien d'accéder à ces données-là.
Il faut voir comment c'est possible de le faire à Grenoble. Voilà.
Je vais noter et je vais voir, effectivement, parce que ça pourrait compléter aussi. Et sinon, par rapport à comment j'ai mesuré l'acoustique, mais j'ai fait des mesures in situ, en fait, des temps. Bon, j'ai mesuré les temps de réverbération, j'ai mesuré l'intelligibilité aussi. Donc, c'était des essais normés, des bruits interrompus. Et j'ai fait des essais avant et après. Voilà.
Voilà, donc.
Non, mais c'est peut-être important de préciser que c'est une paroi dans un milieu.
Oui, tout à fait.
Je t'entends pas, Grégoire.
Non, je voulais préciser que c'est une paroi dans un milieu. C'est pour ça que la notion de mur haptique, c'est un mur dans un milieu, c'est pas une enveloppe.
Non,
d'accord.
Tout à fait.
Il faut quand même nuancer aussi, du coup, l'effet, enfin,
l'effet acoustique.
Les résultats et la... Parce qu'il était hors question de pouvoir construire. Et ce sont des... Enfin, en tout cas, pour l'abbaye, c'est dans un espace existant... avec ses qualités initiales.
Oui, tout à fait. En fait, ça représente 10% des surfaces, la surface qui a été modifiée.
Ouais. Alors, personnellement, moi, je pense qu'il y a un vrai accord, en fait, entre la perception de la lumière et l'acoustique et la thermique. Hein. Je pense que si on croise les trois dans un appartement qui est vraiment qui est avec des matériaux terre, il y en avait d'autres, hein, il y avait du bois, etc. Je pense qu'il y a une vraie corrélation entre les sens il faut faire attention à la... Il ne faut pas dissocier, j'allais dire, là pour le coup on est vraiment dans les ambiances, il ne faut pas dissocier l'acoustique de la thermique et du visuel. Je pense qu'une lumière un peu brune via la terre qui propage une luminosité à l'intérieur des appartements qui est particulière, rend et l'acoustique, et avec une thermique qui vous baisse de 4-5 degrés quand vous rentrez dans un appartement en terre par rapport à l'extérieur. Donc tout ça génère un sentiment de confort immédiat dont l'acoustique peut peut-être bénéficier, en fait, mais peut-être pas d'une façon très... quantitative, mais plutôt un peu subjective. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord. Et justement, après, je pense qu'on n'a pas...
Voilà, bah merci Martha pour cette présentation et les questions qui ont suivi.